Hello, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue sur Ijaweli. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver après ce long moment d'absence. Mais avant de commencer, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. Et tout ce que je souhaite pour vous, c'est que cette année soit remplie de grâce, de bénédiction et la santé avant tout. Et peut-être qu'un jour, je serai l'invitée de l'autre côté de mon micro pour vous dire, pour vous parler davantage de moi et aussi pourquoi ce long moment d'absence. Donc voilà. Sur ce, aujourd'hui, je vous amène en Côte d'Ivoire et au Nigeria où nous allons parler de deuil périnatal, d'endométriose aussi, mais surtout quand on a tellement attendu ou qu'on a tellement désiré avoir un enfant, toucher ce bonheur du bout du doigt et que quelques jours après la naissance de votre enfant, vous perdez l'enfant. Comment on fait pour vivre ça? Comment fait-on pour traverser cette épreuve déjà en tant que personne tout simplement, en tant que maman, en tant que parent et en tant que couple? Et à mon micro aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle. Et sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Elle s'appelle Tina. Coucou Tina, comment ça va?
Bonjour, ça va bien. J'insiste sur le bien parce que je viens de loin. Mm-hmm. Et bien, pour moi, ça va bien. C'est réalisé tout le chemin que j'ai parcouru et que je suis en train de parcourir. Hein, parce que je suis qu'au début d'aller bien. Donc, ça va bien. Et toi-même?
Oula. Oui, ça va, ça va. En tout cas, on est... On est deux femmes déception, on va passer un bon moment ensemble et je le sens. Oui. Voilà. Et je trouve que ton témoignage est très important pour d'autres femmes, d'autres papas, d'autres. Pour nous, en fait, tout simplement. Et puis, que ce soit un enfant, que ce soit un parent qu'on perd, que ce soit une mère, que ce soit une tante, un deuil, c'est un deuil, en fait. Et puis, on va parler aussi de la maladie, l'endométriose.
Oui. Que les deux sont liés.
Exactement. Donc voilà. Avant de commencer, alors est-ce que tu peux te présenter là ton nom, ce que tu fais, d'où tu viens et tes origines. Voilà.
Bien. Donc mon nom. Je m'appelle Loutina Nicole Nelly, Yuan Ilupeli.
OK.
Ce que je Oui, c'est long. Ce que je fais. Alors, je suis en arrêt maladie, mais je suis doctorante en droit public, j'écris une thèse sur la protection constitutionnelle des groupes religieux minoritaires.
D'accord.
Je fais du droit constitutionnel comparé. ça nous prendrait tout l'épisode que d'expliquer en quoi consiste ma thèse. Mais c'est intéressant, c'est quelque chose que j'adore et que j'aime faire.
J'imagine.
J'enseignais à l'université
OK.
de Lyon 2, parce
D'accord.
que je vis en France. Et ça, c'est ce que je fais. Mes origines, je suis ivoirienne, je suis mariée à un Nigérian. Donc maintenant, je suis ivoiro-nigériane. Je viens du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis gourou de père et de mère.
D'accord.
C'est tout. Hein.
OK.
C'est bon, j'ai
Oui,
respecté.
non, c'est ça. Non, c'est bon. T'as tout dit. Alors, Tina, moi, je veux que tu me. Ce que je veux savoir, quand est-ce que ça a commencé, ton mari et toi, vous avez commencé, enfin, vous avez commencé à parler de projet bébé et puis commencé les essais.
On a commencé à parler de projet bébé quand on était fiancés.
OK.
On avait commencé parce que pourquoi on a commencé à en parler pendant les fiançailles? C'est parce qu'on connaissait déjà ma situation.
OK. Et ça fait combien de temps vous êtes ensemble?
Alors là,
Oui, je pense que ce serait bien qu'on commence par le début.
on est ensemble, enfin, on se connaît depuis 2009. On est ensemble depuis 2011.
D'accord. Ah oui, quand même.
Ouais, et on s'est fiancés en 2021, on s'est mariés en 2022 et on a eu le bébé en 2022.
D'accord. Et du coup, est-ce que pendant que vous étiez ensemble, est-ce que tu connaissais, à quel moment tu as su en fait par rapport déjà à l'endométriose
Alors,
que tu avais ça?
l'endométriose, je l'ai su en 2019, mais déjà depuis 2000, enfin depuis mes 19 ans, le gynécologue m'avait dit que avoir un bébé, ça allait être compliqué, sans me dire
OK.
que j'avais de l'endométriose. Ce qu'il avait décelé, c'était
D'accord.
plutôt le syndrome de l'ovaire polykystique, mais qui est plutôt que l'on devrait appeler plutôt le syndrome des ovaires multifocaux. Mais Il m'avait dit ça. Donc, depuis mes 19 ans, je savais que j'allais avoir des difficultés à avoir un enfant. Mais c'était pas essentiel pour moi parce que à cet âge-là, déjà, c'est pas la priorité.
Oui.
Et ensuite, je voulais pas forcément avoir des enfants. Pour moi, c'était j'en ai pas, j'en ai pas. Donc, c'était vraiment pas le point focal, en fait. C'était pas important. En fait, c'était pas si important que ça.
Oui.
Et puis, 28, 29 ans, je commence à me projeter parce que je me trouve, j'anticipe beaucoup, donc je me trouve déjà trop vieille. Donc, je me dis, bon, il me faudrait déjà avoir un enfant. Donc, je commence à penser à avoir un enfant toute seule. Donc, je me dis, toute seule, comment je fais? Parce que en ce moment, mon mari et moi, on s'était séparés. Donc, je commence à me dire, un enfant toute seule et tout ça. Il y a la crise d'endométriose. Donc, la crise d'endométriose, il faut dire qu'elle vient avec aussi beaucoup, beaucoup de dépression. Les crises d'endométriose viennent avec beaucoup de dépression. Et en plus de la dépression, il y a le fait que l'on se retrouve toute seule dans sa douleur parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Et même quand on l'explique, on nous comprend rarement parce que c'est une douleur qui est parfois
Exactement.
indescriptible. Parce que quand je dis que la crise d'endométriose, ça me fait mal à la jambe, les gens ne comprennent pas pourquoi ça me fait mal à la jambe, alors que c'est que, bah, aujourd'hui, je sais, parce que j'ai le médecin de la douleur qui m'explique que le nerf, en fait, il passe dans le nerf de la jambe. Donc, ça fait mal là, donc j'ai mal à la jambe. Et tu as mal à la jambe, tu as mal à la tête, tu as des migraines. Enfin, c'est tout un.
C'est invivable. C'est
C'est
handicapant.
invivable,
Oui.
voilà. Oui, ah non, mais totalement. Et là, je me dis, mais ma vie est gâchée. Parce que c'est handicapant, donc je n'arrive plus à rien faire. Ma carrière, je n'arrive pas à la construire. Maintenant que je veux un enfant, voilà, je ne peux pas en avoir. Et puis, on a même été en 2019, 2019-2020, on a eu un gynécologue qui voulait enlever tout, enlever l'utérus, enlever les ovaires, enlever tout. Et là, bah, je me suis dit, je vais tout perdre. Je vais perdre ça, sans avoir eu l'occasion de pouvoir faire un enfant ou pas. Et puis, plutôt en 2020, j'ai bien dit en 2020, je crois. En 2020, et mon mari me dit, parce qu'on avait déjà commencé à parler de mariage fin 2020, et il me dit, quand on enlève l'utérus ou pas, pour moi, en fait, ça changera pas le fait que tu sois totalement une femme et je tiens quand même à t'épouser. Et là, moi, je lui dis, mon frère, là, on est deux, tu parles bien. Mais le mariage, c'est une histoire de famille.
Exactement, surtout
Donc,
en Afrique.
oui, va chez toi. Va en parler avec la personne la plus importante pour toi, après moi, bien sûr.
Bien sûr.
Va lui dire, et puis reviens-moi. Et cette femme, c'est une femme extraordinaire. Parce que, en fait, ce qui pour moi constitue un problème n'a pas constitué un problème pour elle. Parce que la réponse qu'elle a donnée à son fils, c'est que rien ne dit que vous n'aurez pas d'enfant, en fait.
Exactement.
Donc, elle ne voit pas le problème qu'il est venu lui expliquer. Donc, qu'il la laisse tranquille et qu'il retourne. Donc, il est revenu, il m'a dit, ben, voilà ce qu'elle a dit.
Ah, c'est pas toutes les belles mamans qui vont donner ce genre de réponse, Antina. Je peux t'assurer qu'il faut avoir la
Ah
grâce
oui,
de Dieu
non,
sur
mais
soi.
sincèrement, j'ai une belle famille. Enfin, ma famille. Elle est magnifique, ma maman, parce qu'aujourd'hui, c'est ma maman, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie. C'est une femme extraordinaire. Et pour te dire, dans le deuil que l'on a traversé, c'était ma mère, la maman de mon mari, comme ça, qui nous tenait. Il y avait plein de... Il y a pas que les deux, mais tu vois, les deux ancres, là, qui te tiennent comme ça. Et puis, on
C'est
a d'autres
ça,
personnes qui
oui.
tiennent la tête, qui tiennent les pieds pour qu'on soit hors de l'eau. Mais nos deux bras... C'était elle, en fait. Tu vois, elles nous tiennent comme ça. Enfin,
C'est les deux mamans,
oui,
oui.
elles nous tiennent par les bras comme ça. Elles nous tiennent par les épaules pour nous tenir debout. Et puis, tu as le reste de notre support système qui tient le reste du corps. Mais elles nous tiennent, en fait. La tête hors de l'eau, là, c'est elle. Et puis, le reste du corps est porté par le reste de notre support système. Et donc, là, on commence avec. On a fait beaucoup de prières ensemble, bien que mon mari soit musulman. Hein, donc, il prie. On a suivi la prière. Je pense que la prière même où c'était avec Transformation Church, on a prié ensemble et on continuait le suivi médical. Et puis, on se marie en février 2022. Et une semaine, 10 jours après le mariage, j'ai une crise d'endométriose, mais j'avais jamais eu de crise comme ça. Et là, on a terminé aux urgences et ça a été urgence, hospitalisation. Et
Oh là
enfin, ça
là.
a été urgence hospitalisation, urgence hospitalisation. On a enchaîné. Donc, tout le mois de mars 2000, 2022, début avril 2022, c'était que ça. C'était crise sur crise, crise sur crise, crise sur crise. Et puis, on avait rendez-vous, notre gynécologue nous avait référé à la PMA pour commencer la PMA. Donc, on va pour la PMA. On a
Oui.
commencé les examens. J'ai eu une hystéro, j'ai eu des radios, j'ai fait tous les examens. On avait le rendez-vous pour la PMA. C'était le 25 avril, je me souviens bien. Et on arrive, et j'étais sortie le 25 avril, une semaine avant, je crois, je sortais des urgences. Et j'avais très mal, j'avais du mal à m'asseoir en plus.
OK.
Et j'ai dit à la dame, j'ai vraiment besoin qu'on fasse des examens parce que là, ça ne va pas. Elle m'a dit, vous avez fait un test de grossesse. Je lui ai dit, mais non, mais attendez, on va arrêter en fait avec ces tests de grossesse. Parce que depuis que je fais, depuis le 22 mars, j'en ai fait au moins à chaque fois que je suis venue. Et j'en ai fait un il y a 2 semaines. Donc, je ne vais pas en faire un maintenant. Et il était négatif, en fait. Et qu'à chaque fois, quand j'ai des tests de grossesse et qu'ils reviennent
Ok.
négatifs, ça crée.
C'est
C'est
encore
difficile.
plus de
Même
frustration,
si
ça.
je
Oui,
sais
c'est
que
ça.
je vais rentrer dans le processus de la PMA et que c'est normal que ce soit. Parce que je n'ovule pas. Donc, c'est normal que, je sois, que ce soit négatif. Mais avoir ce résultat et le voir, entendre me dire, vous n'êtes pas enceinte, madame? Ça m'apporte pas, c'est pas quelque chose de bien pour mon âme.
Oui.
Je lui dis ça, elle me dit, faites quand même, madame, j'entends ce que vous me dites, mais faites quand même un test de grossesse. Elle insiste, je commence à bouder, mon mari dit, bon, d'accord, on va le faire, je le regarde. Et puis, elle nous demande le test de
Oui.
grossesse, vous le faites urinaire ou
Cinq ans.
sanguin? Et mon mari qui dit sanguin, je lui dis, hé, mon ami, c'est toi qu'on va
C'est pas
piquer. Parce qu'en
l'ucopique.
fait, moi, mais oui, non, mais c'est pas l'ucopique. Parce que depuis, ça va faire 2 mois là, moi je ne fais que me faire piquer, j'ai plus de sang donc non, je ne veux pas. Donc je le regarde encore très mal. Donc quand on sort, je le pince. Il me dit, mais chérie, tu me pinces pourquoi? Je lui dis, non, il faut que tu ressentes la douleur d'une aiguille dans ta peau parce que tu as dit ça là-bas. Il m'a regardé, il a tourné la tête et puis bon, on est rentré à la maison, j'ai boudé, j'ai pu crier dessus. Donc le lendemain, je me lève, je me trouve une excuse pour pas aller faire le test. Il était allé au travail, il m'envoie un message, chérie, tu allais faire le test. Je lui dis, non, je ne peux pas marcher, j'ai mal au nez. Il dit, hé, chérie. Et donc, le 26, je ne vais pas faire le test. Le 27, je vais faire le test le matin, je boude.
Malgré toi, quoi.
Ouais, malgré moi. Non, mais à mon corps défendant. Enfin, ce n'est même pas malgré moi, c'est à mon corps défendant. Et il y a la dame qui me dit, pourquoi vous faites? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire le test ici, on vous demande pourquoi vous faites ce test. Donc, je lui dis que c'est mon médecin, là, qui a juste envie de confirmer, enfin, d'infirmer encore une fois et tout, qui m'a demandé de venir faire les tests de grossesse. Elle m'a dit, vous n'avez pas très envie. Je lui ai montré mes bras, je lui ai dit, regardez, je me fais piquer tout le temps, donc moi, je commence à en avoir mal et tout. En plus, ça m'avait fait un hématome. Donc, elle a piqué tout doucement, elle y est allée. Et c'était la première fois qu'on me piquait avec
De
autant de
douceur.
douceur. Donc, je lui ai dit, ah là là, j'ai rien senti. Alors que j'avais mal au bras déjà. Donc, je lui ai dit, j'ai rien senti, c'est très bien et tout. On a bien rigolé, je suis rentrée à la maison. Je rentre à la maison, je m'endors, je me réveille 17 h, je regarde mes mails, j'ai le résultat. Je vois 7542. Je n'oublierai jamais ce chiffre. Et en fait, dans le test, ils ne vous mettent pas enceinte ou pas enceinte, ils vous mettent les chiffres. Ils vous mettent
Oui.
un tableau avec tous les, enfin, qui
Les
vous
taux
dit,
là.
avec les taux qui vous disent à quel moment vous êtes, à quelle période de votre grossesse vous êtes. Moi, je regarde. Moi, je sais la date de mes derniers rapports sexuels. Et ça datait de bien longtemps. Je sais la date. Donc, ils me mettent, en fait, ici, dans 7542, je suis entre 2 et 5 semaines de grossesse. Moi, je compte 2 et 5 semaines de grossesse. Ça tombe pas. J'ai pas eu de rapport. Mon dernier test de grossesse datait d'il y a 2 semaines. Donc, si j'étais enceinte de 5 semaines, je le saurais depuis là. Donc, ça tombe
Ben
pas.
oui, c'est ça, j'allais
Donc,
dire, oui.
j'ai attrapé ma tête. Je dis, Seigneur Dieu de gloire, quelle maladie je suis encore allée soulever qui vient me donner un tel résultat. Est-ce que je n'ai pas suffisamment souffert
Ma
dans ma vie? Non, mais j'étais à bout. Là, j'étais au bout de ma vie. J'étais à bout. Et j'ai une maman que j'aime bien, que je contacte, je lui envoie le message. Je lui dis, maman, est-ce que tu connais un médecin? Parce que je ne voulais pas affoler mon mari du tout, parce que moi, j'étais déjà affolée. Donc, j'allais transmettre la
Oui.
même énergie à mon mari qui est au travail et qui allait être affolé. Donc, je dis à la maman, tu as un ami médecin dans tes contacts. Elle me dit, pourquoi? Je dis, non, j'ai fait un test de grossesse là, et le résultat ne me revient pas très bien. Donc, est-ce que tu peux regarder, lui envoyer? Donc, je fais la capture d'écran. Je lui envoie. Elle me dit, oui, le médecin dit que le résultat là, c'est le résultat d'une femme enceinte de 5 semaines. Je dis, non, c'est pas possible. Je ne peux pas être enceinte de 5 semaines, c'est pas possible. Mon mari et moi, nous ne sommes pas
Jésus.
rencontrés il y a 5 semaines, c'est pas possible. Il y a 5 semaines, j'étais
Bah,
intouchable.
tu vois, ça rejoint un peu ce que ta belle-mère, elle avait dit. Qu'est-ce qui dit que vous n'allez pas avoir d'enfant?
C'est ça. C'est ça. Et donc, on est là. Moi, je dis, bon, je ne me prononce pas du tout. Donc, elle, la maman, là, elle a commencé à crier, oh, gloire à Dieu, par-ci, par-là. Et j'avais dit à ma mère que j'allais faire le test de grossesse. Donc, je lui donne le résultat et je lui dis, ma mère, elle a commencé à chanter, danser, sauter par là. J'ai dit, maman, pardon, attends d'abord. Non, mais parce que je voulais
Oui,
vraiment
c'est
pas être
ça en fait et
déçue.
tout. Ouais, je
Je voulais vraiment
comprends.
pas être déçue. J'avais beaucoup de craintes et beaucoup d'appréhension. Donc, je lui dis, calmez-vous. Tant qu'on n'est pas allé faire une échographie, que moi, je n'ai pas vu l'œuf loger dans mon
T'y crois
utérus, là,
pas. Tu
je
es
ne me prononce
Saint
pas.
Thomas.
Ah non, 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 cette fois-là, j'étais Saint Thomas. Et le lendemain, on se réveille. Ah, j'avais mal, une crise de douleur. Je ne pouvais même pas me tenir. Donc, direction urgence. Et quand on arrive aux urgences, la première infirmière qui nous reçoit, sage-femme qui nous reçoit, parce que moi, je vais directement, parce que vu que je sais ce que j'ai, en principe, donc je vais aux urgences gynécologiques. Et elle commence à poser des questions. En plus, je vomissais, ça
Oh
n'allait
là
pas du tout.
là.
Elle commence à poser des questions et elle demande, est-ce que vous êtes enceinte? Mon mari dit oui. Je l'ai regardé, je dis que oui. Tu es enceinte avec qui? Je dis, madame, je ne sais pas. J'ai fait un test de grossesse. Le résultat, c'est 7542. Mais je ne sais pas si je suis enceinte. Elle me dit, oui, 7542, c'est que vous êtes enceinte. J'ai dit, madame, je ne sais pas si je suis enceinte, s'il vous
Je
plaît.
veux voir.
Donc, oui, elle m'a regardée. Je pense qu'elle a dû se dire que cette femme-là, elle est un peu folle. Mais bref, bon, j'ai l'habitude qu'on me traite de folle, donc ça ne me disait rien. Moi, j'avais mes problèmes. On a avancé, on nous a pris en charge. Donc, on nous dit, madame, on nous a dit que vous êtes enceinte. Je dis, non, madame, je ne sais pas. Faites une échographie, on verra. Elle dit, oui, c'est pour ça que vous êtes, on va faire l'échographie. Et on a fait l'échographie. Je vois les larmes de mon mari couler là-bas. Moi, je ne sais pas si je... Et d'abord, elle me dit, oui, parce que je lui envoie le test de grossesse. J'ai oublié de dire ça. Je lui envoie le test de grossesse. Elle me dit, oui, madame, selon les résultats, en fait, vous êtes enceinte. Mais vu les douleurs que vous décrivez, ça doit être une grossesse extra-utérine. Hey, je suis passée de la personne qui n'était pas
Ah,
enceinte à
God
celle qui est
forbid.
enceinte et qui ne veut pas perdre le bébé en une fraction de seconde.
J'imagine. Ah
Elle
oh
me
là
dit,
là.
oui, mais...
Les montagnes russes,
Non,
quoi.
mais
Oui.
ce jour-là, j'ai perdu 10 kilos, j'ai repris 10 kilos. Le pire, c'est qu'elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas si c'est une grossesse extra-utérine, on la fait passer rapidement. Hé, tu vas faire passer la grossesse de qui?
Je sais pas ce que
Oh.
ça a pris.
J'ai dit, bon, attendons, attendons d'abord, attendons déjà qu'on confirme la grossesse. Donc, je monte sur le lit d'auscultation, on me fait coucher, elle commence à passer la sonde. Et là, je vois mon petit nuage, mon petit miracle. C'est un œuf, mais enfin, je le portais déjà dans mes bras. Je le portais déjà dans mes bras.
Oui,
Et je vois mon mari, elle nous montre, elle a montré à mon mari qui, on ne savait pas où se mettre, en fait. On était, vraiment, je ne sais pas où on était, comment on était, mais on était quelque part. Elle me dit, il n'y a aucun problème, madame. La grossesse est bien placée. Que vraiment, à ce stade-là, on ne sait pas ce qui vous fait mal. Mais ça doit être les ligaments, vu que vos... Bref, des problèmes là-bas. Donc, vos ligaments doivent tirer et c'est ce qui vous fait mal. Donc, pour l'instant, on va vous mettre sous antidouleur. Mais à ce niveau d'antidouleur-là, il faudra les arrêter parce qu'il y a le bébé.
Oui,
Ah, ah, ah.
je veux souffrir.
Ouais, non, là, tu penses plus à ce, tu penses plus à la souffrance, tu penses, mais j'étais tellement en joie. En fait, c'est comme si la douleur était partie et tout. Donc, on m'a envoyé en chambre, on m'a mis sous antidouleur, ma gynécologue est venue, elle était contente parce qu'on se battait ensemble depuis longtemps. Elle m'a dit, mais madame Yuan, je suis vraiment contente parce que avec les douleurs que vous avez là, la PMA, ça allait être compliqué pour vous. Je l'ai regardée, je dis, ah bon. Donc, c'est aujourd'hui que là, madame, vous allez me dire ça. Et tout, et on était contents. Donc, j'ai envoyé les photos des échographies à ma mère et tout ça. Et c'est là qu'on l'a baptisé. On a baptisé le bébé Petit Nuage parce qu'il était tout petit. Et on a dit que c'était le petit nuage qui annonçait la
Ok,
pluie. Et
d'accord.
puis, on est sortis de là. Et c'est comme si, dès l'instant où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à vivre tous les symptômes d'une grossesse. Donc, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à être fatiguée. J'ai commencé à... En fait, j'ai eu 2, 3 jours où, tu vois, il y a un glow de grossesse là. Je suis devenue toute jaune, mon teint est sorti d'une certaine façon, je souriais, et puis les 2, 3 jours passés là, j'ai perdu l'appétit. Quand l'appétit revient, il veut, en fait, c'est un appétit spécifique pour manger une chose spécifique. Donc, je commence la nuit à prendre mon téléphone, à chercher Akasa dans Lyon, chercher, 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 trouver. Non, mais c'était terrible. Et vraiment, c'était un vrai petit Yoruba qu'il y avait dans ce ventre, parce que je devais manger haricots, je devais manger égoussi, je devais manger Akasa, je devais manger Doknou. Enfin, c'était oh, un vrai petit Yoruba. Et puis, on a vécu la grossesse. Pendant la grossesse, c'était aller-retour aux urgences. J'ai eu des vomissements gravidiques, donc j'ai vomi tout le long de ma grossesse. 20 semaines. À 20 semaines, je vais commencer à avoir les premières contractions. Et puis, ça va faire. Au début, je ne savais pas que c'était des contractions, c'était des douleurs.
Oui.
Et comme ma vie est habituée à la douleur, mon corps est habitué plutôt à la douleur, je pensais que c'était de simples douleurs. Donc, la première nuit, bah, ça a été une nuit compliquée. Après ça, on avait. Après, avec la sage-femme, on arrive chez la sage-femme, elle nous ausculte, et là, elle va dire, Madame, il y a un risque d'accouchement prématuré.
Oula.
On arrive aux urgences gynécologiques de la HFME, ouais, et on nous dit, bah, 21 semaines et 2 jours,
Ah, c'est tôt.
il n'y a aucune chance de prise en compte en fait, du bébé quand il va sortir, parce que c'est considéré comme une fausse couche tardive, donc vous allez perdre le bébé. Et pour qu'on prenne en compte le bébé, faut au moins jusqu'à 24 semaines ou 25 semaines, voire. Et puis si là, les contractions continuent et que j'accouche, ben, ça en sera la fin,
Oh
quoi.
là là.
Donc avec mon mari, on a commencé à pleurer, 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 pleurer jusqu'à. Et puis on a dit, bon, on va serrer les cuisses. C'est pas le moment de faire le deuil. Donc on tient la première nuit. La seconde nuit, je crois qu'on tient le second jour. Le troisième jour, on finit en salle d'accouchement. On a des contractions, ça va pas, on finit en salle d'accouchement et on remonte, on est remonté. Donc quand on est remonté, on s'est dit, ah, là, on peut tenir même tenir jusqu'à 9 mois. Mais on a tenu jusqu'à 23 semaines et 5 jours. On a tenu jusqu'à 23 semaines et 5 jours. Et l'enfant est né exactement le 3 septembre 2022 à
Ah, ok.
22h40, à 23 semaines et 5 jours. Avec
Ouf.
570 grammes.
Ah,
Et il est né vivant, il est né
d'accord.
viable.
Ah oui, donc il était très prématuré.
Non, ouais, ça s'appelle la très grande prématurité.
OK.
Il est très costaud quand même. Il a tenu, il respirait.
Et à ce moment-là, c'était quoi votre ressenti, toi et ton mari? Est-ce qu'il y avait comme un mélange de, je sais pas, de feeling, c'est-à-dire, OK, il est là maintenant, bah, il va se battre pour tenir, ou bien vous avez toujours cette angoisse-là de se dire, il est là, mais on a toujours le risque de le
Non,
perdre.
on n'est pas. Vraiment, c'est la première option. Dès qu'il est né, en fait, on s'est dit, il est né, il est vivant, il est viable, on se bat pour continuer. Point. Les risques liés même
D'accord.
à sa prématurité, on va les découvrir au fur et à mesure. Mais dès qu'il est né, pour nous, il était né pour vivre. Parce que son histoire, en fait, pour nous, l'histoire de Petit Nuage, c'était l'histoire d'une vie. C'est quelqu'un qui s'est battu du début jusqu'à la fin. Déjà, on
Oui.
n'arrive même pas à savoir quand sa mère est tombée enceinte. Donc, il s'est insinué là où personne ne pouvait s'insinuer. Donc, il s'est battu pour. La fécondation, c'est l'histoire d'une bataille, parce que c'est miraculeux.
Oui.
Et donc, même sa naissance, même malgré toutes les difficultés de sa naissance, bah, on était dans l'espoir qu'il allait vivre. Et c'était enfin le petit bébé dont tout le monde parlait au centre de néonatologie. On avait toujours une histoire quand on arrivait pour prendre soin de lui. Il avait débranché tous ses capteurs.
Oh.
Il tapait, il ne voulait pas qu'on le dérange quand il dormait, donc il tapait avec ses bras et ses pieds. Il avait fait ceci, il y avait toujours une histoire. Et puis après, les infirmières aussi, elles ont toujours une histoire à raconter quand vous arrivez sur votre enfant pour que vous partagiez sa vie. Et il était beau. Après, je suis une maman amoureuse de son bébé, donc, mais objectivement, mon fils était magnifique. Et il était en vie. Il n'avait pas vraiment de problème, son cerveau, enfin, sur. Oui, il n'avait pas vraiment
Oui.
de problème.
Et c'était le plus
À part,
important.
j'ai oublié le terme, il avait juste le problème de sa. J'ai oublié le nom. Mais c'était. En fait, ça, il y avait une valve qui n'était pas fermée et qui faisait passer le sang et dans les poumons et dans le cœur. Et vu l'immaturité de sa conception, c'était normal que ça ne se ferme pas. Donc, il fallait fermer ça chirurgicalement. Et il n'a pas écrit à la chirurgie parce que dans la semaine, il a eu trois chirurgies différentes. Et après la dernière chirurgie, ce n'était pas possible. Son cœur était fatigué. C'est un petit poids, de petits organes. Tout était fatigué. Et il a expiré quand même.
Ok, donc si, désolé, je sais, ça va être un moment pas facile et tout, mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que je pense qu'il y a le moment où ton petit nuage s'en va, mais il y a aussi le après et les réactions des gens. Et donc, si je comprends bien, c'était lors du troisième opération en fait qu'il est parti.
C'est ce matin-là, hein, parce que c'est parti à 1h40. Donc, on est resté longtemps, 2 heures, 3 heures avec lui. 2 heures. On est rentré à la maison, on a informé que nos mères respectives. Et donc, le matin même, on était beaucoup plus tranquille et tout. C'est au fur et à mesure des visites et au fur et à mesure qu'on informe les gens que les choses vont devenir rigolotes. Parce que on va déjà, ça va commencer par dire à mon mari d'être fort et de ne pas pleurer. Alors que nous, quand on est rentré à la maison, je lui ai dit, je refuse d'être la seule, en fait, à exprimer sa douleur. On a tous les deux perdu.
Mais
Oui,
excuse-moi,
dis-moi.
Tina, juste avant d'arriver à ça, quand du coup à l'hôpital et ton petit nuage est parti dans tes bras, vous étiez que tous les deux avec ton mari lors de l'opération, c'est ça?
Oui, on n'était que tous les deux. On n'était que tous les
OK.
deux.
Et après ça, c'était quoi votre est-ce que OK, on va préparer des obsèques, comment on va l'enterrer, enfin voilà, enfin, j'essaie juste de En fait, ce que j'aimerais que les gens comprennent déjà, c'est dans quel état vous êtes déjà pour commencer. Et après, maintenant, prendre son courage d'aller annoncer cette nouvelle et de faire peut-être les préparatifs et de compter peut-être sur d'avoir un support système qui est vraiment là. Et finalement, vous allez découvrir que, ben, en fait, il y a des phrases ou des paroles qu'on ne dit pas dans ces moments-là.
On était dévastés. On parlait des obsèques. On parlait des obsèques immédiatement parce que, et pour moi, en tant que maman, c'est la première fois que je voyais mon fils sans aucun appareil, sans une sonde et sans rien. Et on a passé du temps avec lui, en fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je l'ai porté, je l'ai gardé dans mes bras, je l'ai gardé sur moi, je lui ai parlé. Je lui ai demandé de se réveiller parce que c'était pas possible pour moi de le perdre, en fait. J'ai resté mon temps et on bouge. T'es jamais vu sans bouger. J'ai besoin que tu bouges. Maman a besoin que tu vives. Dis-moi ce que maman doit faire. Et mon mari était assis, il me tenait les mains, ou il se tenait les mains lui-même. Il regardait dans le vide. Il parlait pas. Il pleurait. Et vous savez, chez les musulmans, il y a une prière qu'on fait sur le corps d'un être qu'on perd. Et mon mari a dit que il ne pensait pas dans sa vie avoir à prononcer cette prière-là sur le corps de son enfant. Et moi, j'étais là. J'avais le bébé dans les bras. Je ne voulais pas le lâcher. À un moment, on m'a dit que fallait que je redonne le corps et que c'était possible parce que le monsieur des pompes funèbres allait passer. Donc, il fallait que je redonne le corps. Et sincèrement, là, je voulais prendre le corps de mon fils et puis me barrer. C'est tout ce que je voulais faire. Parce qu'il n'était jamais rentré à la maison avec nous, en fait. Un mercredi, on est parti de la maison, puis on n'est plus revenu. Moi, je suis revenue toute seule, mais je suis revenue sans le bébé. Et il n'était jamais revenu avec nous à la maison. Et pour moi, c'était
J'imagine.
essentiel que mon fils revienne à la maison. Mais il n'est jamais revenu. Je suis désolée.
Désolée, Tina. Non, mais non, t'as pas à être. En fait, c'est ce que tu ressens. C'est le cœur d'une maman qui parle.
Donc, on a passé le temps à lui parler. En tout cas, moi, vraiment, j'ai passé le temps à lui parler, à le porter, à le déposer, à l'embrasser. Je pense que je l'ai embrassé. Enfin, je voulais l'embrasser pour toute la vie parce que.
Parce que oui, pour toi, tu voulais revenir à la maison avec ton bébé, c'était non. Parce que il s'est battu pour être là et puis
Ouais, il
c'était
s'est tellement
déjà un
battu.
miracle en fait.
Je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé. Je l'ai embrassé. Et puis, on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, sur le chemin, j'ai dit à mon mari que je voulais que l'enterrement se fasse très vite. Je n'ai pas envie. Et je lui avais dit qu'on faisait ça que tous les deux. Je ne veux pas qu'on en parle aux autres. On le fait rapidement et puis on n'en parle plus. Parce que on est rentré, on s'est couché. Il m'a demandé si je voulais qu'il mette une. Parce qu'en fait, mon mari me voyait, en fait. Il voyait que ça n'allait pas. Il m'a demandé, il m'a dit, chérie, je te mets une adoration et puis on va dormir avec. Je l'ai regardé. Il a mis Victor Thompson.
Oui.
Et les paroles de la chanson disent, Oh Lua et Tobi, et Tobi, oh, et Tobi. Et ça signifie, je vais pas tout chanter, mais ça signifie que il n'y a qu'un seul Dieu. Et après, il dit que venez m'aider à l'adorer, en fait. Et c'est dans cette atmosphère, c'est ensuite vraiment une atmosphère d'adoration quand on s'est endormi. Et on a été réveillé, moi j'ai été réveillée par la montée de lait et par l'alarme de 5 heures parce que je commençais à tirer le lait à 7 heures. Et quand l'alarme a sonné, parce que je me suis endormie, et tu sais, quand on dort, on est
Oui.
paisible. Donc j'étais paisible, j'étais en train de me réveiller par la douleur de la montée de lait. Et quand l'alarme a sonné, c'est là que j'ai réalisé que je n'avais plus d'enfant et que j'avais les seins pleins de lait et que j'allais devoir tirer le lait pour rien du tout. Ah, j'ai crié comme je n'avais. Enfin, je pense que c'est à cet instant-là que mon âme s'est déchirée
Ah,
réellement.
que la douleur en fait.
Oui, mon mari s'est réveillé en sursaut. Il allait chercher le tire-lait et j'ai pleuré tout le long. J'ai pleuré. Et je crois qu'il a appelé ma mère ou ma mère a appelé et ma mère lui a dit, il faut essuyer les larmes, faut pas que les larmes tombent sur mes seins. Je sais même plus si c'est à ce moment-là, en tout cas, ma mère avait dit ça. Et puis, bah, on tirait le lait, je tirais le lait, je tirais le lait en pleurant, en fait. À chaque fois que je tirais le lait, je pleurais. Et là, ce jour-là, on va commencer à organiser les obsèques. Donc, mon mari va me laisser toute seule. Et avant de partir, il va me demander, est-ce que je vais venir te trouver? Je lui dis, oui, tu vas me trouver. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas,
Ah,
je ne te
j'ai
donnerai
mal
pas
au
de corps à
cœur.
enterrer, je ne ferai pas ça. Donc, il allait prendre les informations et à chaque fois, on lui demandait, mais oui, c'est pour enterrer qui? Et il m'a dit, là, quand il a fait dire que c'était pour enterrer son fils, on fait là, lui, ce n'était pas au moment de tirer le lait, mais c'était au moment de dire que je viens prendre des informations pour enterrer mon fils. Et on lui demandait, mais il a quel âge? Il devait dire ça, il a 40
Là,
ans.
désolée, c'est enfin, je ne peux que mon cœur pleure en fait, comme à chaque fois quand je t'écoute en parler.
Et puis, les visites ont commencé à s'enchaîner, les appels téléphoniques, parce qu'on était tous les deux à Lyon. On a une grande sœur qui est venue, et c'était la première personne à me dire, pleure. Quand elle est venue, déjà, j'étais en train de pleurer, donc je pouvais pas faire autre chose. Mais quand elle est arrivée, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit, pleure. Pleure jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de pleurer. Mais pleure.
C'est
Et qu'elle m'a
ça.
dit ça, je lui ai dit, mais
Libère-toi.
on m'a dit de ne pas pleurer, elle m'a dit, c'est faux, pleure, pleure, pleure. Mais de toute façon, à ceux qui m'avaient dit de ne pas pleurer déjà, je leur avais dit, j'avais dit, j'ai compris, j'avais dit que je ne les appelais plus.
Comment tu pouvais faire autrement, en fait?
Parce que, en fait, je pouvais pas, en fait, effectivement, et c'était la seule chose qui me restait à faire parce que je n'ai pas d'enfant, je n'ai plus rien. Vous voulez que je fasse quoi? Que je rigole? Mais je pleurais pour tout. Et j'allais pleurer, je n'allais même pas me retenir de pleurer. Et j'allais pas me retenir de pleurer, surtout parce que quand on est rentré le vendredi matin à la maison, enfin aux aurores, il y a une voix qui a commencé à résonner dans mon esprit et qui disait, en fait, c'est, j'en parle dans le prochain épisode de mon podcast, mais qui disait, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ça me répétait ça, ça me répétait ça, ça me répétait, ça se répétait dans mon esprit. Et je savais en fait que c'était quelque chose que j'avais déjà lu dans la Bible. Je prends mon application et je tape mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ça me sort, c'est Jésus qui l'avait dit sur la montagne du Gethsémané avant de mourir sur la croix. Et c'était comme si, en fait, le Seigneur me disait, j'entends ta peine, va jusqu'au bout de ta peine. Parce que moi, je suis là avec toi. Tu as le droit d'être triste. Donc, j'avais déjà reçu ce sceau-là. Et moi, quand je suis convaincue de quelque chose, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux mourir, tu peux ressusciter. Tu ne vas pas me faire tanguer. Si je ne suis pas convaincue que j'ai des doutes, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis convaincue, ah non, tu ne peux pas. Et donc, j'étais convaincue. Là, ça m'avait déjà. J'avais déjà, en fait, ce sceau-là sur ma peine et ma douleur. Donc, j'étais prête à pleurer
Tu
jusqu'au
savais qu'il
bout.
était là, en fait. Oui.
J'étais prête à pleurer jusqu'au bout. À pleurer, 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 pleurer tous les jours. Ce n'est pas mon problème. Et puis, avec mon mari, on a eu la discussion. On a dit qu'on allait se laisser exprimer jusqu'au bout notre. On allait vivre le deuil, on allait exprimer nos émotions et on allait être chacun les remparts pour les autres.
Oui.
Et puis, il y a eu des paroles, il y a eu des... Au moins, toi, tu es vivante, toi, tu n'es pas morte. Et à la personne qui m'a dit ça, j'aimerais lui dire que, à choisir, j'aurais voulu mourir parce que moi, j'avais déjà vécu 30 ans. Et que, il y a cette épée de Damoclès là qui est sur ma tête et qui me dit que c'était peut-être mon seul enfant. Et il y a le parcours que nous, on a, le parcours que nous, on a fait pour avoir un seul enfant qui est parti et qui est un parcours difficile parce que la grossesse, ça a été chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Parce que j'ai pleuré autant dans la grossesse que je
Oui.
pleure, enfin, que je pleure maintenant parce que ça fait 5 mois et j'ai pleuré les 5 mois. Et de sorte à ce qu'aujourd'hui, mon mari, quand il me regarde, il me dit que lui ne veut plus jamais me voir coucher parce qu'il est traumatisé de ce qu'il a vu. Je suis quelqu'un de très énergique, qui
Non.
bouge beaucoup. Tu vois, toi qui me vois là, tu sais que quand je parle, je bouge. Donc imagine-toi quand je suis dans la vie de tous les jours, je bouge beaucoup et tout. Je suis très énergique, mais je suis arrivée à un point où je n'étais qu'une larve, en fait, où je traînais, où aller me laver était tout un effort.
Oui.
Était tout un effort. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais je ne cuisinais que par besoin. C'était juste par survie, parce que donc je vais cuisiner une fois
Oui.
et puis je vais penser à manger parce que j'ai un bébé. Mais si j'avais pas un bébé, je ne mangerais pas. Donc après avoir vécu 5 mois aussi intenses et bouleversants, quand tu me dis, toi au moins tu as envie,
Ouais.
mais je ne suis pas là, moi. Moi, je sais pas où se trouve mon fils, mais je le cherche dans les méandres de l'espace. Je ne suis pas là. On a eu les pleurs pas. On a eu les pleurs pas, mon mari. Toi, tu es un homme. Vous n'avez pas d'histoire à raconter. Vous n'avez pas suffisamment vécu. Et j'ai raconté à cette personne-là tout ce qu'on a partagé avec notre fils, les moments de lecture, les moments de peau à peau. Et cette personne a eu la grandeur d'esprit et la bienveillance de dire, ah, je reviens sur mes mots parce que je pense que vous aviez vraiment une histoire et qu'on ne se rend pas compte que le petit temps, nous, on considérait que c'était un petit temps, mais pour vous, ça a été une vraie histoire. Parce qu'on a vécu chaque jour de ces 40 jours. Fallait se lever le matin, fallait tirer le lait. On allait vous dire qu'il a fait caca, il a fait popo. Il avait été très mignon. Aujourd'hui, il avait une infirmière préférée. Il reconnaissait nos voix. Il avait une façon de se conduire avec moi et avec son et qui est différente de la façon dont il avait de se conduire quand c'était son papa qui venait le voir. Quand c'était son papa, il était tout calme. Et tout de sorte que l'infirmière et moi, on s'est dit, mais il veut nous faire passer pour des menteuses, ce petit nuage. Parce que quand son papa est là, il est tout calme. Mais comme moi, je suis là, il va nous faire des saturations, des désaturations. Ah non,
C'est
non,
le
non. Il va
contraire.
désaturer, il va sursaturer, il va débrancher tous ses câbles. Mais avec l'infirmière, on se
C'est
dit,
l'énergie de
attends.
maman, quoi. Donc voilà, il
Exactement.
te
Toi, tu as tout
redonne.
compris.
Oui, c'est ça.
Et à l'hôpital, il avait surnommé le petit champion. Parce que ses constantes étaient toujours bien et tout, à part ses poumons et son cœur, le reste, tout allait bien. Son cerveau, il grandissait bien, il prenait du poids. Je me souviens qu'on avait fêté les 750 grammes, on a fêté les 1 kilo
Oh.
et on n'a pas pu fêter plus. Et je me suis rendu compte
Je
que,
pense que dans ces
oui,
moments-là, il n'y a pas de mots. Il faut juste que même les
exactement.
gens qui veulent être là, je pense que si tu n'as rien à dire, je pense que c'est juste même s'asseoir à côté de la personne et regarder la personne pleurer ou crier, en fait, je pense, ou tenir la main de la personne. Parce que une douleur, c'est une douleur et ça ne se compare pas.
Et en fait, on n'est pas obligé de dire quoi que ce soit.
C'est ça.
Je pense que j'ai un épisode où je parle de ça. On n'est pas obligé de dire quoi que ce soit. Être présent simplement. Ou demander, dis bonjour Tina, je pense à toi. Bonjour le mari de Tina, je pense à toi. En fait, ça, c'est suffisant. On n'est pas obligé de nous donner des conseils. Oui, relève-toi. Moi, quand je traverse une situation compliquée, je me relève. On n'en a pas besoin, en fait. En tout cas, à 24 heures de la perte de notre enfant, à 1 an de la perte de notre enfant, on n'en a pas besoin. Parce que on a déjà dans notre esprit, là, parce qu'on sait pertinemment qu'on va devoir continuer à vivre. C'est bien ça le problème, nous, on est en vie. Donc, on
Oui.
n'a pas besoin que vous nous disiez que vous devez vivre, vous devez. On a juste besoin. Moi, mon meilleur ami, quand il est arrivé, il a salué mon mari, ils se sont dit bonjour, il s'est dirigé directement vers moi, il est venu, m'a pris dans ses bras. Et en fait, quand il m'a pris dans ses bras, mon meilleur ami, c'est le parrain du bébé. Il m'a pris dans ses bras, en fait. C'est comme si c'était un gros câlin, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, enfin, toutes les larmes de mon corps disponibles à cet instant-là, parce que ça s'est renouvelé, là où je vivais. Mais on n'a pas parlé. On a parlé d'autres, quand on a commencé à parler, on a parlé d'autres choses, je l'ai taquiné. Et puis quand tout le monde est parti, qu'on était deux, j'ai commencé à lui ouvrir mon âme, en fait. Et là, il m'a dit, mais tu devrais plutôt te réjouir d'avoir vécu ces moments-là avec ton fils. Et que moi, je crois que ton fils est très heureux d'avoir une mère qui a dépensé toute cette énergie. Parce que moi, j'ai pris le temps de lui parler de mon fils, de lui dire tout ce qu'on avait vécu et tout. Et vraiment, ces mots m'ont réconforté et m'ont dit. Et je me suis rendu compte que je ne pleurais pas parce que mon fils était mort. Je pleurais parce que je n'avais plus mon
Oui.
fils.
Qu'il n'était pas là avec vous. Il n'est pas à la maison.
C'est pour ça que je pleurais. Et j'ai commencé à pleurer de plus belle. Et puis il m'a dit, mais pourquoi tu pleures encore? Je lui ai dit, non. Ce que tu as dit, en fait, m'a fait identifier ma peine. Je ne pleure pas la mort de mon fils. Parce qu'il se battait tous les jours et sa vie était très difficile. Et une maman ne veut pas que son fils ait à passer par tout ça. On le piquait tous les jours. On devait le piquer pour prendre son sang pour vérifier. On le piquait tous les jours. Il souffrait. C'était difficile de manger parce que c'était compliqué. Et que je pense que j'en arrive à le dire, mais peut-être que la mort, c'était la meilleure chose qui pouvait lui
C'était
arriver.
un champion. Il s'est battu. Il
Mais
a tout donné.
mon fils. Et il y a des gens qui n'ont pas trouvé autre chose à faire que de répondre comme si c'était une bonne nouvelle. Enfin, déjà, ce n'est ni mon mari ni moi qui t'annonçons que nous avons perdu notre enfant. On te l'annonce et la bonne chose que tu trouves à faire, c'est d'en parler. Alors que moi, je suis très, 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 très dans le respect de mon intimité. En fait, si j'ai envie d'en... Aujourd'hui, je veux en parler. Aujourd'hui, j'en parle. Mais c'est ma décision de rendre publique mon intimité par rapport au deuil de mon fils. Et en fait, je ne lui en veux plus aujourd'hui, mais je trouve son acte très déplacé. Et je tiens à dire aux gens, il y a des choses que l'on n'annonce pas quand on ne vous a pas demandé de le faire.
Exactement.
Parce qu'avoir des appels de certaines personnes à qui je n'ai pas parlé du deuil de mon fils et qui me disent, on a appris la nouvelle, mais vraiment, j'ai trouvé ça blessant alors que j'étais déjà suffisamment blessée. En fait, j'étais à bout de tout. Et je trouvais que c'était un peu trop nous demander, en fait. Dans cette période, on n'avait pas besoin de plus. Moi, j'avais même pas l'énergie de me lever pour manger, me laver. Depuis la mort de mon fils, moi, j'ai perdu l'appétit. Je mange, j'ai des appétits soudains. Je mange parfois parce que j'ai envie et tout. Mais je peux passer toute une journée, même 2 jours, sans manger. Parfois, il faut que mon mari me
Non, chérie.
rappelle de manger. Est-ce que tu as mangé, chérie? Et toute cette énergie que j'ai perdue, je devrais encore gérer ça. Gérer les appels téléphoniques. Répondre au téléphone. Donc, on a trouvé une solution. Moi, j'ai éteint mon téléphone. Il n'y avait que le téléphone de mon mari qui était. Parce que de nous deux, lui, il allait mieux. En tout cas, il tenait beaucoup plus debout que moi. Donc, c'était son
Oui.
téléphone qui était allumé. Ceux qui voulaient. Enfin, si tu n'avais pas le téléphone, le numéro de téléphone de mon mari, tu ne pouvais pas me joindre. On a essayé de faire un tri autant qu'on pouvait le faire. Et puis, moi, j'avais deux deuils à faire. Parce qu'il y avait le deuil de la grossesse qui n'était pas allée à bout, que j'avais suspendu pour me battre pour mon fils qui vivait la prématurité. Et je ne m'étais pas. 40 jours de prématurité, c'est au moins 100 ans. Parce que c'était compliqué la prématurité déjà. Et je devais me battre chaque jour pour me lever. Et donc j'ai eu le contre-coup de l'accouchement qui s'est passé. L'accouchement était difficile, mais l'enfant est né en bonne santé. De cet accouchement, donc le contre-coup de cet accouchement prématuré, du fait que mon corps avait s'était transformé en. Je n'avais plus de bébé à l'intérieur de moi et je n'avais pas de bébé dans mes bras. Le contre-coup de mes allers-retours au centre de néonatologie et le contre-coup et le deuil. Donc ça a fait tout d'un coup. Et en un mois, mon mari m'a dit bah, déjà ma mère, elle m'avait dit tu rentres. Mon mari a insisté, il m'a dit bah, va falloir que tu rentres. On n'avait pas l'argent pour, mais on a sorti parce qu'il fallait
Oui.
sortir l'argent pour les obsèques. Hein. On a eu de l'aide de nos proches, mais ça coûte quand même très cher d'enterrer un enfant, d'enterrer quelqu'un en France. Et on a fait des obsèques simples.
Oui.
Je crois qu'il y avait une dizaine de personnes. Au début, je voulais absolument pas assister à ça parce que ça, pour moi, c'était. Et même le jour au funérarium, quand j'ai vu le corps de mon enfant tout froid, tout blessé. Je m'attendais, j'espérais qu'il se réveille.
Il y avait toujours de
Je me suis
l'espoir.
dit, ils ne sont pas encore arrivés, on a jusqu'à 14 heures. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et puis, ils m'ont dit, bah, quand on va le mettre dans son cercueil, oh mon Dieu, dans son cercueil, c'est possible. On va se mettre dans le cercueil, on va fermer le cercueil, on va le sceller. Vous ne pourrez plus le voir. J'ai dit, mais comment ça? On peut le réouvrir un peu. Elle a dit, non, c'était pas possible. Donc, on va vous laisser le temps de recueillement. Et puis on va sceller le cercueil. Et puis, ils ont fermé le cercueil. Avec mon mari, on a porté le cercueil jusqu'au corbillard. Et puis, ils sont partis avec notre bébé. On les a suivis. Mais à cet instant-là, en fait, je ne ressentais plus rien. J'avais arrêté de pleurer. J'étais livide. J'avais le
Vide en
regard,
fait,
ouais. J'avais le regard perdu. Et puis, on est arrivé. C'est quand on est arrivé aussi. Quand on est arrivé au cimetière, ça allait. Hein. Je riais, on parlait, on discutait, on marchait. Et puis le corbillard est arrivé. Il fallait faire la marche funéraire ou funèbre, je ne sais plus. Il fallait porter le. Et on a porté le corbillard. Et je me suis dit, une maman doit être digne jusqu'au bout pour son enfant. Une maman tient debout. Une maman tient debout pour son enfant.
c'est ce que j'allais te dire. Femme forte, doit
Tu
rester
t'oublies.
forte.
Tu fais, de toute façon, c'est la dernière fois que tu auras fait quelque chose pour lui. C'est fini. Il ne va pas se réveiller, il ne va pas revenir. Donc, fais-le bien. Fais-le bien, Tina. Tu fais toujours les choses comme il faut. Tu fais toujours les choses bien.
Oui.
Et puis, j'ai pris la sangle avec mon mari. Et puis, on a commencé à marcher, j'ai commencé à chanter. Mais j'ai chanté de tout mon être parce que c'est ce chant-là que j'aurais chanté à mon enfant le soir et je le lui chantais déjà quand il était dans la couveuse. Et j'ai chanté. J'ai chanté. Et mes amis, mes parents, mes sœurs, mes frères à côté de moi ont chanté. On l'a accompagné. Et une maman là qui voulait qu'on filme, je lui ai dit non, je voulais pas. Tu vois, j'arrive à raconter en détail. Donc, c'est déjà dans ma mémoire. Je ne veux pas avoir de vidéo. Enfin, pour moi, c'est pas un moment à
Oui.
immortaliser. De toute façon, il est déjà immortalisé
Dans ton
dans mon
âme,
conscient, dans mon
oui.
subconscient, dans mon âme, dans ma chair, dans tout. Donc, c'est pas la peine. Et puis, après, on a parlé de lui. J'avais des amis qui disaient que. Et c'était bien parce que le fait qu'on ait eu ce moment-là avec. Je t'avais dit au début que je voulais pas, que je voulais le faire seulement à deux. C'est ma mère qui m'a dit que ça ne se fait pas.
Oui.
Que vous êtes deux petits-enfants, ma mère, pour elle, on a toujours 5 ans, mon mari et moi. Vous êtes deux petits-enfants seuls avec le corps de leur enfant en France. Vous ne pouvez pas faire ça seul. Dites à vos amis, dites à vos parents en France, ceux qui peuvent venir viendront, mais ne faites pas ça seul. Et elle avait raison. Ma mère est une femme
Je pense
sage.
que c'est une belle cérémonie. Oui, je pense
Et
que
ça a
c'est.
été une belle cérémonie parce que la plupart des gens l'avaient pas, personne ne l'avait vue, en fait. Il n'y a que 3 personnes qui l'ont vue, mon mari, moi, et un de mes meilleurs amis qui vit à Abidjan, qui était venu en France et qui est venu le voir rapidement, qui est parti. C'est le seul à l'avoir vu et lui-même n'était pas aux obsèques. Et donc, personne ne l'avait vu. Mais quand ils ont commencé à témoigner, j'étais là et je me suis dit, ah, mon fils, c'est quelqu'un. Mon fils, c'est quelqu'un.
Tu vois, c'est.
Parce qu'il y a une amie qui m'a dit que
J'ai des
quand Tina
frissons.
m'a appelée pour me dire qu'elle était enceinte, je me suis rendu compte que tout était possible.
Avec Dieu, tout est possible.
Et que chaque jour, ouais, et que chaque jour qu'on avançait dans la vie de petit nuage, c'était chaque jour d'espoir pour elle. Et que elle, ce qu'elle garde à l'esprit, c'est que on ne doit pas abandonner, on ne doit pas arrêter de vivre. Et quand elle parlait, et quand chacun venait dire, oui, pour moi, petit nuage, c'était ceci, pour moi, je dis, mais attends, il parle de qui? Il parle de mon fils comme ça.
De ton fils, oui.
Et que ces 40 jours, c'était 40 jours de vie, 40 jours de combat, 40 jours de victoire, mais 40 jours d'espoir. Et il y en a parmi les personnes qui sont venues, qui étaient venues pour le mariage qui avait lieu en février, étaient revenues pour les obsèques et qui disaient que, enfin, c'était pas ce que eux ils avaient prévu, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Exactement. Même si c'est dur, c'est difficile, on comprend pas,
Et
mais.
j'étais là. Et on est rentré, on a mangé, on est allé au restaurant. Je fais les choses bien, on est allé au restaurant, on a mangé, on a
Bah,
discuté.
oui, il faut le célébrer parce que c'est une âme qui
Ah
rejoint
oui,
Dieu.
on vous aurait même pas dit que c'était des gens qui venaient de cimetière. Donc on rigolait, on a mis l'ambiance dans les restaurants. Et puis quand on a fini, on est rentré à la maison. Mon mari travaillait le lendemain. Il a enterré son fils, il allait au travail le lendemain. Et puis.
Mais et toi, Tina, en tant que femme, comment Comment on fait face à un tel drame pour ne pas se sentir, je ne sais pas si le mot que je vais employer va être bien, mais tu me pardonneras, se sentir coupable ou avoir, je ne sais pas, un sentiment d'échec, tu sais, parce qu'en tant que femme, nos corps nous demandent, notre corps nous demande tellement et que parfois quand on n'arrive pas ou quand on a touché ce rêve du bout du doigt, parce que au début on veut pas, après finalement on se dit oui, on peut et que c'est possible. Et tu te dis, ah, mon corps est capable de le faire et de donner cette vie. Et finalement on n'arrive pas. Et donc, je sais pas comment on fait en tant que femme et surtout qu'il y a, ça reste encore tellement tabou, alors qu'il y a plein de femmes qui souffrent en silence. Parce que bah, ils ont, soit ils ont perdu l'enfant, soit c'est parce qu'il y a eu une fausse couche. Enfin, voilà, en tant que femme, Tina, comment on fait?
Comment on fait? En fait, si j'avais la réponse à ça.
Oui. Je sais, mais je sais pas, je
Tu
demande quand
sais.
même parce que déjà, je pense qu'il doit y avoir comme un sentiment, je sais pas, peut-être d'échec, de culpabilité. Et puis après, il y a aussi la pression, peut-être externe aussi, qui va venir aussi se rajouter. Et après, je te demanderai aussi en tant que couple, comment on fait aussi pour s'en sortir.
Alors, je me sens. Se sentir coupable et être coupable, c'est deux choses différentes. Je ne suis pas coupable, mais je me sens coupable parfois. Et j'ai analysé les événements qui ont précédé la naissance de mon fils depuis qu'il est décédé. Je ne fais qu'analyser. J'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Et à chaque fois, la dernière, il y a quelques jours, on avait le rendez-vous de rendu, c'est-à-dire que quand l'enfant était en néonatologie et qu'il meurt, vous avez un rendez-vous où on vient vous expliquer comment s'est déroulée sa vie. On fait le récapitulatif de sa vie en néonatologie, le récapitulatif des interventions et aussi on vous explique la dernière intervention, si c'était possible de faire autrement ou pas. Et les médecins se remettent en question. Donc, on a eu le médecin s'est remis en question. Et moi, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était rempli de bienveillance. On avait notre psychologue qui était là. C'était très bien. Moi, vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'était très bien parce que ça m'a donné l'occasion. Et je pense que ce rendez-vous-là, ça a été le moment où j'ai arrêté, en tout cas de mon souvenir, c'est le moment où j'ai arrêté de culpabiliser. Et donc, pour moi, arrêter de culpabiliser, de se sentir coupable, ne va résulter que d'un processus de libération de la parole et des émotions. Parce que il a fallu que je rencontre ce médecin et qu'il me dise, Madame, vous ne pouviez rien faire
En
du
effet.
tout. Votre corps est constitué de telle façon que vous portez des grossesses très bas. En plus, vous avez de l'endométriose. L'endométriose, il faut qu'on en parle, influe sur les grossesses. On a plus de risques de fausse couche quand on est une femme vivant avec de l'endométriose. On a plus de risques de naissance prématurée
Oui.
quand on est une femme vivant avec de l'endométriose. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut se préparer. Et moi, je n'étais pas suffisamment préparée.
Oui.
Et même si j'avais été, et ça c'est le médecin, il m'a dit, Madame, parce que moi, je lui ai dit, j'aurais dû être suffisamment préparée pour anticiper, il m'a dit, Madame. Vous auriez pu être préparé totalement, même pas suffisamment totalement préparé, que vous n'auriez rien pu y faire parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et même nous, médecins, à l'heure où la médecine aujourd'hui, parce que le centre où l'hôpital où j'ai accouché, c'est l'un des meilleurs centres en termes d'accouchement. Ils prennent en charge l'endométriose, ils font les PMA, ils sont experts en gémellité, ils font quoi? Ils sont niveau 3 en néonatologie. Mais il m'a dit qu'il y a le corps et il me dit, il y a quelque chose qui décide au-dessus de nous qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, et quand on est arrivé, mais pourtant, je vous dis que c'est à ce moment-là que j'arrête de culpabiliser, mais je suis suivie depuis ma grossesse, depuis
Ben voilà.
la mort de mon fils, par la psychologue, et on parle toujours de déculpabilisation et tout ça, hein. Mais c'est pour ça que je parle de processus. Mais c'est là, à ce moment-là, en sortant de son bureau. Je n'arrête pas d'avoir mal. Je n'arrête pas de pleurer parce que quand on est sorti de son bureau, on a vu un bébé qui sortait par la même porte, la porte des
Oui.
urgences, où on les amène parfois en cardiologie ou pour faire des opérations et tout ça. Et dès que j'ai vu ça, je me suis écroulée. J'ai commencé à pleurer comme pas du tout. Donc, on n'arrête pas d'avoir mal. La preuve, l'épisode qu'on est en train d'enregistrer. On n'arrête pas d'avoir mal. En revanche, on arrête de culpabiliser.
Oui.
Et moi, j'ai arrêté de culpabiliser. J'ai arrêté de culpabiliser aussi parce que j'ai commencé à accepter que tout ne dépendait pas de moi et que je n'étais pas responsable de tout.
C'est ça. Je pense que c'est un message important, en fait, que
Exactement.
c'est important parce que tu peux te poser plein, plein de questions, mais en fait, il y a des choses que tu peux juste pas, en fait. Tu peux pas faire autrement. Et c'est comme ça. Et
Non.
c'est ça, le
Non.
deuil, il y a plusieurs étapes dans le deuil. Donc, on va passer cette étape-là. Après, il y a l'étape de l'acceptation. C'est arrivé. Maintenant, comment je fais?
Et puis on vit pas toutes les étapes de la même façon.
Exactement. Et c'est un
Parce que
processus.
moi j'ai accepté le deuil de mon fils dès que je suis sortie, parce que je reste très réaliste. Donc j'ai accepté le deuil de mon fils dès que je suis sortie de l'hôpital. Mais la phase de remise en question, de déni, comme on l'appelle, mais j'aime pas le terme déni, mais où tu te dis
Oui.
oui, moi je l'ai vécu après, bien après. J'ai commencé à me dire, mais oui, mais j'aurais pu. Il y a des moments où je me
OK.
levais et je me disais que c'était pas arrivé. C'était pas arrivé, j'étais dans un mauvais rêve. Et que peut-être que si je tombais ou si je me pinçais trop très fort,
Tu vas te
j'allais me
réveiller.
réveiller. C'est arrivé bien après. Et puis, j'ai eu la phase, j'ai une phase d'insomnie totale où je ne dormais pas. À chaque fois quand j'étais à la maison, quand il y avait du silence, j'entends les bruits de la machine de l'hôpital là. Parce que la machine,
Oui.
avec la couveuse et tout, il y a d'autres machines et ça fait plein de bruit. Donc j'entends, parfois même là encore, j'entends les bruits. En revanche, la culpabilité, me dire que si j'avais pas trop marché, j'aurais dû me rendre compte que mon utérus est très bas et que je porte mes grossesses, enfin ça se voyait que, parce que mon ventre, ça arrondissait pas vraiment. Donc j'avais la grossesse très basse et que moi, on pouvait même toucher le... C'était descendu, on touchait l'enfant dans sa... On arrivait à le toucher. Et tout ça, en fait, ça passe. J'aurais rien pu faire. Les choses se sont passées telles qu'elles
Okay.
se sont passées. Et je dois vivre avec ça. Je dois accepter que les choses se soient passées comme ça s'est passé. Et je dois accepter que ça me fasse mal et que ça me brise les os de mon corps et que ça me brise mon âme et que un jour, peut-être, je pensais à mon fils sourire et ne pas pleurer. Et puis voilà. Parce qu'en ce moment,
Oui, mais je trouve
exactement.
ça, c'est un processus. Je pense qu'il n'y a pas de deadline pour dire oui, j'ai pleuré tant, maintenant je dois arrêter et tout. Non, en fait, je pense que.
Et c'est ce que je veux, c'est le message que je veux véhiculer au travers de mon podcast. C'est de dire à chaque femme, que ce soit une fausse couche, que ce soit une fausse couche tardive, que ce soit une interruption médicale de grossesse, quelle que soit la forme, et que ce soit même le fait de ne pas pouvoir enfanter, parce qu'on doit faire le deuil de l'enfant à venir dans toutes ces situations-là. Quand tu ne peux pas enfanter, à un moment, tu dois te dire, je dois accepter de ne pas pouvoir avoir un enfant. C'est un deuil. Et tous ces deuils-là sont légitimes. Et
Oui.
qu'il ne faut pas attendre la validation de qui que ce soit.
Merci.
Tu as perdu ton enfant à 2 semaines de grossesse. Tu as été enceinte 2 semaines. Tu as imaginé, tu as pensé acheter des habits pendant ces 2 semaines. Tu as changé ta façon de vivre pendant ces 2 semaines. Tu ne fais pas seulement le deuil de l'enfant, tu fais le deuil de ta condition de femme enceinte. Tu fais le deuil de ta condition de... Et tu fais le deuil de ton futur de mère. Ce n'est pas simple. Tu fais ton deuil de ton futur de mère, tu fais ton deuil de ton futur de l'enfant, du futur de l'enfant que tu avais. Moi, j'avais déjà préparé le futur de mon enfant jusqu'à ce qu'il se marie. Ma mère avait déjà commencé à conceptualiser sa femme, qu'il allait choisir une femme qui n'allait pas me plaire et que j'allais crier dans la maison et qu'elle n'allait pas avoir que moi qui aime les gens bien éduqués, elle n'allait pas être éduquée du tout et que j'allais devoir apprendre à accepter que c'est le choix de mon fils et qu'elle allait s'associer à mon mari pour me dire que c'est son choix ou pour accepter. Nul, il faut accepter. Et j'étais là et je disais à ma mère, toi, tu viendras plus chez moi. Et je disais à mon mari, tu sors de la chambre, tu dors plus dans mon lit. Et tu t'imagines toutes ces conversations-là?
Oui, c'est ça. Mais c'est normal parce que tu te projettes en fait. Et je pense que c'est tout à fait
Exactement.
normal. Nous sommes des êtres
Et tous
humains.
ces deuils-là sont légitimes. Il ne faut pas attendre. Moi, je dis pleurer, hein. L'ego, les parents, les papas. Pleurer. La meilleure thérapie, c'est pleurer. Quand j'arrive chez la psychologue, je commence, je lui dis, oh, aujourd'hui, je pensais ne pas pleurer. Elle rigole. Mais je pleure bien pendant 1 heure. Je rentre à la maison. Je vais faire mes courses. Je viens, je dors. Mais j'ai pleuré. Parfois, c'est la semaine où j'ai évacué. Parce que dans la vie, dans le train-train quotidien, On ne se rend pas compte qu'on emmagasine et on a besoin d'expulser. Mais j'expulse. Parfois même,
Oui.
j'expulse tout ce qui est frustration. Mon mari et moi, on s'est disputé, ça m'a fait me rappeler des trucs. Et parfois, on se rend compte que, enfin, on s'est disputé parce qu'on était frustré sur des choses qui étaient relativement liées au deuil de notre enfant. Et on arrive à mettre le doigt dessus avec la psychologue. On pleure bien tous les deux. Quand on rentre à la maison, c'est un nouveau cycle. Et parfois, il y a des pleurs de décharge.
Ça libère.
Parfois, quand ça m'arrive, je pleure un bon coup, j'essuie mes larmes, et puis je m'en vais, je vais à mes occupations. Si je dois dormir, je dors. En fait, l'une de mes occupations depuis un certain temps, c'est dormir. Donc, si je dois faire cette occupation-là, bah, je vais à mon occupation. Et puis, je me réveille, et puis la vie continue. Mais ce qui est difficile, et ce qui a été difficile pour moi, et la phrase que j'ai dite quand on est rentré à la maison, mon constat, c'était mon fils est mort, et la vie continue. Et j'en ai voulu au monde entier de ne pas s'être arrêté. Quand mon fils est mort. Parce que j'aurais voulu que tout s'arrête.
Oui, parce que la
Oui,
vie
parce que le
continue.
lendemain, il fallait déjà aller aux pompes funèbres pour aller faire des réservations et tout ça.
Malheureusement. Voilà, nous sommes déjà à la fin de la première partie de cet épisode avec Tina, que je remercie beaucoup du fond du cœur, et je te retrouve très vite pour la deuxième partie. Comme d'habitude, je mettrai l'ensemble de ces informations dans la description de cet épisode. Mais déjà, je peux vous dire que vous pouvez aller la suivre sur sa page Instagram qui s'appelle Les mots d'une mère endeuillée, où elle a un podcast justement où elle partage vraiment, mais épisode par épisode, comment elle a fait pour vivre ce deuil. Et pour elle, c'était une thérapie en fait. Son podcast était une thérapie pour elle de pouvoir justement traverser cette épreuve. Et elle a aussi une autre page qui est dédiée à l'association Adin Tani qui lutte contre la précarité menstruelle. Donc, elle fait beaucoup de sensibilisation, de levée de fonds pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir leurs règles dans des bonnes conditions. Parce que nous sommes des femmes, mais cela ne veut pas dire que nous sommes condamnées. Et en tant que femmes, on a le droit d'avoir ces règles tous les mois dignement, en ayant accès à des protections disponibles, gratuites, pour pouvoir traverser ces moments-là tous les mois de notre vie. Donc, je vous invite à aller également sur cette page si jamais vous voulez faire un don, si vous voulez soutenir d'une manière ou que ce soit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Tina et elle se fera un plaisir de pouvoir vous répondre. Et enfin, si tu as aimé cet épisode, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-le massivement autour de toi, partage-le à tes proches, à tes amis, à tout le monde pour m'aider à faire connaître Ijaweli. Et ça me ferait super plaisir d'avoir ton feedback concernant cet épisode ou Ijaweli de manière générale. Et je t'attends sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.